Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Tentaculaire, le qualificatif revient souvent quand il s'agit de parler de l'affaire Benalla. Rappelons qu'elle a commencé en juillet, qu'elle a notamment fait l'objet d'une commission d'enquête sénatoriale dont les travaux ont duré plus de 6 mois. Des travaux publiés fin février et jeudi, le Sénat a décidé de saisir la justice pour les cas de 5 protagonistes du dossier Benalla. Avec une telle décision, est-il dans son droit ou dans son rôle? Bonjour Julien Boudon.
Bonjour monsieur.
Vous êtes professeur de droit public à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Alors, avec cette décision, le Sénat demande en fait à la justice d'enquêter. Qu'est-il reproché à ses collaborateurs de l'Élysée? Le Sénat a-t-il le droit de saisir la justice?
Ce qu'il est reproché à 3 d'entre eux, en tout cas, c'est un faux témoignage, voire une subordination de témoins, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958. S'agissant des deux autres, et notamment d'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, la commission n'est pas arrivée à des éléments suffisamment pertinents pour les qualifier de subordination de témoins ou de faux témoignages, et elle laisse au parquet, au procureur de la République de Paris, le soin de mener des investigations complémentaires pour vérifier s'il y a bien faux témoignages.
Bon, mais alors on peut comprendre que l'on attaque quelqu'un pour faux témoignages. En revanche, là, il s'agit aussi de saisir la justice pour incohérence, contradiction ou omission. Est-ce que sur le plan juridique, c'est possible, professeur?
C'est tout à fait possible. Il ne faut pas mélanger ici les rôles. La commission parlementaire, elle est là pour recueillir des éléments d'information, conformément au texte, et il ne lui appartient pas de se substituer à l'autorité judiciaire. Elle demande simplement, s'agissant des autres faits, de ces incohérences, omissions, etc., dont vous parliez, elle demande simplement au parquet de mener des investigations complémentaires pour vérifier si, le cas échéant, il y a, ce que disait le bureau du Sénat jeudi dernier, si ces personnes, l'Alexis Kohler et le général Lavergne, ont retenu une part significative de vérité. Vous apprécierez si cela est constitutif d'un mensonge par omission.
Effectivement, le Sénat outrepasse-t-il ses droits? Professeur Boudon, est-ce qu'on a le droit, lorsqu'on est sénateur, de saisir une instance juridique contre l'exécutif? Parce que c'est ça le problème.
Ici, ce n'est pas exactement contre l'exécutif. En tout cas, ce n'est pas le président de la République qui est désigné, mais uniquement des collaborateurs du président.
Vous jouez un peu sur les mots.
Mais non, le président de la République a une protection constitutionnelle qui est visée aux articles 67 et 68 de la Constitution. Mais ce n'est pas de cela dont nous parlons ici. La commission d'enquête parlementaire semble tout à fait dans son rôle, puisqu'elle, conformément au texte, notamment à l'ordonnance du 17 novembre 1958 que je citais tout à l'heure, elle est là pour recueillir des éléments d'information sur des dysfonctionnements, soit sur des faits déterminés, soit sur des dysfonctionnements de services publics.
Bon, mais alors on se dit qu'il peut y avoir un risque, et évidemment celui-ci a été agité, d'instrumentalisation politique. Il a été agité par d'autres partis politiques, mais là-dessus, comment y voir clair, professeur Boudon?
Bon, monsieur Erner, nous ne vivons pas dans un pays de bisounours. Nous parlons ici de l'arène politique. Nous sommes dans l'arène politique, nous ne sommes pas dans l'arène juridique, nous sommes dans l'arène médiatique et dans l'arène politique. Il faut savoir que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, finalement la seule institution de la République qui ne soit pas, acquise aux marcheurs, c'est le Sénat. Et les tensions avec Gérard Larcher existent depuis mai 2017. Elles semblaient s'être apaisées en 2018 et l'affaire Benalla, comme l'affaire des Gilets jaunes, ont relancé les tensions entre les deux pôles.
Bon, mais alors si on met les bisounours de côté, parce que vous voyez bien qu'il peut y avoir une utilisation, une sorte de perversion de ces mécanismes qui, sur le plan juridique, vous paraissent exacts ou en tout cas valides, on peut imaginer qu'ils soient instrumentalisés à des fins politiques, pas forcément dans ce cas-là, ou peut-être dans ce cas-là, ou peut-être dans d'autres cas.
Ils sont évidemment instrumentalisés. Il faut noter que ce genre de déferlement au parquet, enfin ce genre de saisine du parquet, est assez rare. Nous en avons quelques exemples seulement sous la Ve République et plutôt.
Lequel, par exemple ?
Nous avons un premier exemple en 1997, s'agissant de la commission d'enquête sur les tribunaux de commerce, où le président Mattei avait fait l'objet d'une investigation de la part du parquet. Et surtout,
ça avait été un grand scandale.
Ça avait été un grand scandale, et beaucoup plus récemment, on se rappelle que le professeur de médecine, M. Aubier, a été condamné en première instance, puis en appel, en 2017 et en 2018, pour faux témoignage devant déjà une commission d'enquête parlementaire du Sénat. C'était à propos de la pollution de l'air.
Et lorsque l'on prend donc ces différentes procédure, donc là, il y a eu procédure. Si le Sénat, en revanche, n'avait pas déclenché de procédure, est-ce que l'on peut imaginer qu'il aurait pu être accusé d'avoir failli à sa mission?
On aurait pu tout aussi bien le défendre, car l'article 40 du Code de procédure pénale impose à toute autorité constituée de signifier au parquet tout ce qui lui semblerait relever d'un crime ou d'un délit. Or, le faux témoignage est un délit dans la nomenclature du Code pénal.
Et ce faux témoignage, donc effectivement, s'il est un délit, est-ce que l'on peut imaginer aujourd'hui quelle pourrait être la suite juridique de cette affaire? Est-ce qu'il va y avoir des condamnations? Comment ça va se passer dans l'hypothèse, évidemment, où ces différentes personnes seraient retenues comme coupables?
Alors grossièrement, je m'en excuse auprès de mes amis pénalistes, mais on peut imaginer que le parquet agisse dans trois directions différentes. Soit il classe sans suite, c'est-à-dire qu'il considère qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments à charge. Soit il entame des poursuites pénales en estimant qu'il est suffisamment informé. Soit il déclenche ce qu'on appelle une enquête préliminaire, c'est-à-dire qu'il va demander aux services de police des investigations complémentaires.
Et dans cette hypothèse, qu'est-ce qu'il pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait ensuite survenir, professeur?
Ce qui pourrait advenir, c'est très simplement, s'agissant d'un délit, que les tribunaux correctionnels, et en l'occurrence le tribunal de correctionnel de Paris, soient déclarés compétents et mènent des investigations. Et on peut s'attendre, dans le cas où le parquet l'estimerait suffisamment avéré, que un jugement soit délivré par le tribunal, des audiences aient lieu devant le tribunal correctionnel.
Bon, au global, il n'y a rien en fait qui vous choque véritablement, c'est-à-dire vous ne gommez pas la possibilité qu'il y ait une instrumentalisation politique de cette affaire, mais en tout cas, elle reste conforme au droit.
C'est conforme au droit. Là où l'instrumentalisation politique est patente, c'est quant au choix des personnes visées et le fait d'avoir ajouté M. Sroda, chef de cabinet du président de la République, dans le même panier, si vous me passez l'expression, que M. Benalla, M. Kras, voilà qui est, de la part du Sénat, une manifestation d'indépendance, à tout le moins, disons les choses prudemment.
Merci beaucoup, professeur Boudon. Je rappelle que vous avez notamment publié le manuel de droit constitutionnel, et il est en deux volumes, et c'est aux presses universitaires de France.